M. M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût ? Mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Cette semaine, Le goût de M vous entraîne chez Juliette Armanet. Elle est chanteuse, auteure, compositeur et interprète. On la découvre voici 5 ans avec un premier tube mélo, solo, au piano, L'amour en solitaire qui ravivait les belles heures de la variété française façon Berger Sanson. Suit un premier album, Petit Ami, succès critique et populaire, dans lequel Juliette Armanet affirmait son art de mélodiste et de songwriter. On se souvient par exemple de la sublime chanson L'Accident. Elle revient aujourd'hui avec Brûler le feu, un deuxième album physique, disco, hymne au désir, à la danse, à l'amour, qui consume, qui construit, qui réunit aussi. Pour parler de son goût, de son parcours, de son univers, on a rendez-vous chez elle dans le 19e arrondissement de Paris, quelque part entre le canal de l'Ourcq et les buttes Chaumont. C'est un matin d'hiver, froid. Allez, on monte se réchauffer au 4e. On y est.
À gauche. Gauche, c'est là.
Entrée.
Je crois qu'il y a une petite boîte.
En fait, alors je te préviens tout de suite, cet appartement, c'est un.
Il y a eu un anniversaire.
Il y a eu, là, je suis dans les ballons, les confettis, les cotillons.
Ça donne une petite ambiance.
Voilà.
C'est sympa.
Exactement. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit.
Voilà. Ouais. Donc j'ai laissé dans son jus parce que hier il y a eu l'anniversaire de mon fils. J'ai pas eu le temps de ranger.
C'est avancé dans l'appartement, distribué par un couloir. À gauche, la cuisine, au fond les chambres, et face à nous le salon, une grande pièce claire, deux fenêtres, un piano dans le fond, un peu partout des traces donc de la fête de la veille, des ballons, des guirlandes. On s'est installé autour de la grande table en marbre, ovale, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
Le goût de mon enfance. J'ai tout de suite là les tomates farcies. J'adorais ça. Et je...
Que vous mangez où ? C'était votre mère qui les faisait ou...
Je crois que ma mère en faisait. Je crois qu'on allait en acheter avec mon père au marché. J'aimais bien, il y a un côté petit cadeau dans les tomates farcies. On enlève le...
Petit chapeau.
Voilà, le chapeau, la farce. J'aimais beaucoup l'alliance de ce goût-là entre la viande et la tomate. C'était à la fois chaud, c'est un plat qui n'est pas prétentieux. Enfin, je sais pas, c'est tout de suite ce qui me vient, les tomates farcies.
Alors, vous avez grandi près de Lille, Villeneuve-d'Ascq ?
À Villeneuve-d'Ascq, ouais.
Tout d'abord.
Je suis née là-bas, ouais.
La maison de votre enfance, ou l'appartement, il ressemblait à quoi ?
Alors, c'était une maison un peu comme dans les Desperate Housewives, là. C'était les maisons de banlieue... de Villeneuve-d'Ascq, où c'est toutes les mêmes, avec les murs en béton, les petites toits en briques rouges. C'était petite maison, mais j'ai un super souvenir. C'était chaleureux. Il faisait toujours gris, il pleuvait, mais moi, j'aimais bien. Ça m'a jamais gênée, j'aime bien la pluie. Et j'avais un papier peint avec des frites dans ma chambre. Bon, étrange. Il y avait un salon assez grand en bas, avec une baie vitrée qui donnait dans le jardin. Et on avait notre arbre, mais mon père avait planté notre arbre dans le jardin. Donc on regardait notre arbre comme ça. Et j'ai le souvenir, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais qu'il y avait un oiseau qui déposait des petits œufs bleus au pied de la maison. Il y avait ces petits œufs tout bleus. Et on allait tout le temps voir s'il y avait les petits œufs bleus dans le jardin. Voilà.
Et la décoration, tout ça, c'était comment ? Vos parents, ils y accordaient de l'importance à ça ou pas ?
Je crois, ouais. Je crois que si. Non, c'est des esthètes, tous les deux. Ils aiment, ils ont un peu le en tête le trio platonicien, le beau, le bon, le bien. Que ce qui est beau et bon amène le bien moral, quoi. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui... Non, ils sont vraiment attachés à la beauté des choses qu'on regarde, à la beauté des choses ce qu'on touche, à la bonté, au goût des bonnes choses. C'était assez... La maison est toujours nickel, rangée, on mange toujours à table, assis, fourchette, couteau. Enfin, c'était assez rigoureux, d'une certaine manière. Mais oui, je crois qu'ils ont la science du beau. Ça les intrigue, ça les intéresse, ça les obsède un peu même, je crois même. Ma mère était vraiment du genre à repeindre une maison en une journée si la couleur lui plaisait pas, avoir vraiment le... Je me souviendrai toujours, mais ça, c'était pas dans le Nord, c'était un peu plus tard quand on était en banlieue parisienne, quand on avait déménagé. J'étais partie un matin, voilà, la salle à manger était blanche, et puis j'étais revenue, ma mère avait tout repeint en vert à l'éponge, vert très très foncé, donc on avait une salle à manger vert, mais comme si on mangeait dans une forêt. Et c'était vraiment, c'était en une journée, elle nous avait fait ça, genre, oh, j'en avais marre du blanc.
Vos deux parents étaient libraires ?
Absolument,
ils
quand on était dans le Nord.
Ils s'appelaient Les Chimères, c'est
ça ? Les Chimères, oui.
Et qu'est-ce qui... Alors, à part les livres, j'imagine, parce que vous avez dû grandir quand même au milieu de livres, qu'est-ce qui leur plaisait, si vous parlez d'eux ?
Je pense vraiment que les deux grands piliers de ma vie familiale, de mon éducation, c'était vraiment les livres et la musique. Comme mes parents étaient libraires, ils avaient cette librairie dans laquelle on passait tous nos mercredis après-midi, tous nos samedis, parce qu'ils y travaillaient tous les deux.
Avec vos deux frères ?
Avec l'un de mes frères, ouais, j'ai grandi avec un de mes frères et l'autre était déjà adolescent, il est plus âgé et vivait avec sa mère, mais on le voyait très souvent. Et donc on était dans cette librairie comme ça tous les après-midi et le reste du temps quand on était à la maison, j'entendais vraiment tout le temps un piano jouer quelque part, que ce soit mon père ou ma mère, il y avait de la musique absolument tout le temps, c'était en continu quoi. C'était, je crois, une vie assez, je sais pas, une vraie vie de famille quoi, assez simple au final, avec très très tendre, très enlevé, avec beaucoup de, enfin, il y avait de l'ambiance quoi.
C'était vivant.
C'était vivant, ouais.
Et alors donc dans cette famille, donc c'est vivant, il y a de la musique un peu tout le temps. Vous disiez, il y a un goût des choses, il y a un plaisir de manger aussi dans cette famille. C'est
énorme,
important.
Énorme gourmandise.
Ouais.
Ah ouais. Non mais il y avait quand même ce rituel de l'apéro tous les soirs, la tranchette de saucisson, le petit cavalier, ce que mon père appelle le cavalier, un bout de pain avec un peu de pâté, un petit cornichon, un petit coup de rouge, hein, assez jeune. Moi j'y suis allée quand même, franchement. Donc oui, bien manger, cuisiner, grignoter aussi. Ça c'est plus mon père, la grignotade. Là moi je suis rentrée à fond dans ce principe de grignoter, j'adore ça. Et oui, ma mère cuisine hyper bien. Malheureusement j'ai pas trop récupéré ce truc-là moi dans ma famille. À moi, c'est celle que j'ai fondée, c'est mon mari qui cuisine. Voilà, moi je cuisine pas du tout, je sais pas le faire, j'ai pas la patience. Je mange tout avant que ce soit fini, je fais cramer tout, enfin ça marche pas. Je suis pas une patiente pour ça, en tout cas.
Quand vous parlez de votre famille, enfin dans le contexte dans lequel vous avez grandi, vous dites j'ai reçu une éducation renaissance, quoi. Il y avait des arts, des lettres, du sport.
C'est vrai. Non mais même si c'était modeste, c'était assez princier dans l'esprit de savoir faire plein de choses différentes, d'être très polyvalent, d'être à la fois comme ça sportif, en même temps cultivé, de savoir faire autant de la danse que du patin à glace. J'ai fait beaucoup de patin à glace. D'avoir une richesse, une palette. J'ai le souvenir que ma mère me disait, mais tu vois... Ce qui fonde notre humanité, ce qui est le plus fort dans l'être humain, c'est la main. Parce que la main, c'est l'outil le plus polyvalent. Tu peux couper du bois, tu peux composer une mélodie, tu peux peindre, tu peux caresser quelqu'un. Et voilà, c'est toutes les palettes de notre humanité, elles se retrouvent dans cet outil qui est la main, qui est l'outil le plus riche, avec lequel on peut à la fois être artiste, être artisan, pouvoir faire des choses de ses mains, quoi. Je crois que la hantise de mes parents, c'était d'être... Je sais qu'ils aiment pas l'idée d'être spécialiste de quelque chose. Ils ont toujours voulu qu'on sache faire plein de choses à la fois, très différentes, qu'on se frotte à plein de milieux sociaux, à plein de façons d'aborder le monde, à plein de façons de regarder la vie, très différentes. Leur hantise, c'était d'avoir une étiquette, justement.
Et vous avez grandi avec deux frères, vous le disiez. Vous aviez des goûts en commun avec eux ou pas ?
Ouais, je pense que le fait d'avoir été élevée avec des garçons, ça a dû jouer sur plein de choses de mon éducation. En plus d'être la dernière, il y avait peut-être un truc un peu virilisant, même si mes frères sont pas particulièrement virils au sens premier du terme. Mais non, j'ai fait de la moto, j'ai fait pas mal de baseball, j'ai fait des trucs de mec. Bon, voilà, comme ça, et même si c'était pas qualifié de trucs de mec dans ma famille, j'ai suivi le train, quoi. Mais ça me va très bien. Enfin, en fait, je crois même que j'étais peut-être moi le plus mec de la famille.
M. Le goût de M.
Alors voilà, ben là il y a mon piano qui est arrivé. Une semaine après que mon fils soit né, on l'a passé par la fenêtre. C'est un piano blanc laqué. Je voulais du blanc. Voilà, j'avais mon piano d'avant qui était acajou, un peu marron. Là j'avais envie que ce soit un peu crâne, quoi, un peu cocktail. Donc là il est blanc. Acajou, je l'adore. C'est un piano silent, donc je peux jouer au casque. Ce qui est assez génial quand on est mère de famille et en appartement. Bizarrement, je n'arrive pas trop à en jouer chez moi. Moi, j'ai tellement besoin de solitude pour composer, pour créer. Je sais pas, les vrais moments d'abandon, en tout cas pour composer le disque, j'ai vraiment eu besoin de me déplacer, d'aller ailleurs dans une salle où j'étais seule, où je pouvais hurler, crier. J'ai l'impression que pour composer, pour jouer des trucs, je peux, mais pour composer, je peux absolument pas. J'arrive pas à composer ici, par exemple. Ou alors quand je suis complètement seule. Mais sinon, c'est impossible.
Du contexte dans lequel vous avez grandi, vos goûts à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous ?
Moi, je crois que vraiment lire, ça a été une de mes premières passions. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très solitaire, de très intime, de très secret dans le fait de lire un livre, d'explorer tous les territoires de l'imaginaire et de m'apercevoir que c'était la plus grande de mes libertés, c'était d'imaginer. Que c'était mon endroit à moi, unique, que c'était aussi une manière de sortir de ma famille, de sortir de même de moi-même et de m'évader dans mes fictions. Je crois que ça a été une ouverture intérieure énorme de pouvoir rêver, penser, imaginer, avoir des paysages intimes, rien qu'à moi, quoi. Donc ouais, la lecture, ça a été c'était très passionnel comme rapport. Je lisais énormément, beaucoup, tout. Je prenais tout le temps des notes, je soulignais des trucs, j'écrivais, j'avais des carnets. On avait tous des carnets intimes, mais j'avais eu un besoin de lire et d'écrire assez fort, ouais.
Et il y avait des auteurs qui vous plaisaient particulièrement, par exemple à l'adolescence ou...
Je crois que Shakespeare a été un auteur très fondateur pour moi parce que c'est une vision du monde tellement riche, tellement extrême, tellement complexe. Ça m'a fascinée. Racine aussi, vachement. Beaucoup de théâtre, en fait.
Ouais.
Le théâtre m'a beaucoup emmenée. Parce que le fait de pouvoir avoir tous ces langages, que chaque personnage ait son langage, justement toutes ces voix en mêlée, ça me plaisait beaucoup de pouvoir même les jouer, les dire à voix haute dans ma chambre. Tchekhov aussi, je crois que Tchekhov, ça a été très fondateur dans ce rapport aussi puissant au rien de nos vies, quoi, au fait qu'on n'est rien. Qu'on n'est que des circonstances. Le fait que Tchekhov ait eu l'extrême modernité d'enregistrer les conversations les plus anodines et d'en faire un acte de théâtre, de se dire que finalement, ce qu'il y avait de plus théâtral dans nos vies, c'était le quotidien, les échanges les plus insipides. Ça, c'était, pour moi, c'est incroyable, bouleversant. Ça nous aide aussi à aimer nos vies autrement, je trouve. Après, plus tard, Annie Ernaux m'a beaucoup appris, beaucoup consolée de plein d'événements de femmes, de plein d'interrogations, de plein d'insatisfactions et de regards sur soi, beaucoup, beaucoup. Ouais.
J'ai lu aussi que vous aviez été fascinée, alors je ne sais pas à quelle période, par Françoise Sagan.
J'allais en parler. Après ma gorgée de café, Sagan, bah ouais, elle est irremplaçable dans le paysage littéraire parce qu'elle est, c'est une foudre, c'est la foudre. C'est une espèce de James Dean de la littérature. C'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a, elle, c'est une pop star. Elle a un truc de pop star complètement incroyable. Donc elle vient complètement casser les codes de ce que c'est qu'un auteur. En même temps, je vais pas mentir, je pense que Bonjour Tristesse, ça reste le truc le plus sublime qu'elle ait fait. Je suis pas sûre qu'elle ait réussi à atteindre à nouveau un tel degré de génie, quoi.
Ouais, à 19 ans, c'est incroyable.
Incroyable. Et puis, le personnage me séduit, là. Cet amour pour la vitesse, pour le danger, pour le risque, cette façon d'avoir explosé les codes de
l'accident sur la route, quoi.
Voilà.
Non, mais oui. Chanson. Ouais, ouais.
Et puis sexuellement, cette sexualité complètement passionnée, sans, elle a explosé les codes de tellement de choses en même temps. Et puis cette manière de parler comme un petit oiseau sans cesse, insatiable comme ça, très rapide, et en même temps le tout mélangé à une pudeur extrême, à un rapport tellement élégant aux autres. J'adore.
Ouais, et son excès vous plaît, en fait?
Bah ouais, son excès me plaît, parce que...
Vous l'enviez ou ça vous ressemble?
Un peu des deux.
Ok, attention au jaguar, alors.
Ouais, attention au virage, au mauvais tournant.
Et pendant l'adolescence, vous disiez donc beaucoup de lectures. Vous continuez à jouer du piano, même si vous avez arrêté le piano classique, enfin le solfège. Vous continuez quand même à...
Ah, bien sûr. Ouais. J'ai commencé vraiment à écrire mes premières chansons à l'adolescence. Je répétais pendant des heures des grilles d'accords. Je pense que ça devait être un peu fatigant à entendre dans la maison, mais j'avais besoin de mettre des textes sur de la musique. Donc, j'ai jamais trop chanté les chansons des autres. Les seules chansons des autres que je chantais, c'était les standards de jazz avec mon père. Ça, on chantait ça ensemble. Mais sinon, en français, je faisais jamais de reprises. Je me mettais jamais à me dire, tiens, je vais me faire un petit Barbara. Je sais pas, j'avais besoin que ce soit moi qui écrit quelque chose, quoi. Donc, je sais que la première chanson que j'ai composée, c'était une chanson pour une amie à qui je déclarais mon amour, et ça s'appelait Elle au pluriel. Et quand je la réécoute, j'ai l'impression que c'est pas si loin de Manque d'amour, quoi, ou des trucs que j'ai pu faire plus tard, avec des synthés comme ça, parce que je m'amusais aussi avec les logiciels à commencer à explorer tout ça. Mais je sais que j'avais hâte de, même si j'adorais aller en cours, j'aimais trop aller à l'école, moi j'adorais ça. J'avais quand même hâte d'avoir ce moment où je me disais, ah, attends, j'ai pas été au bout de cette grille là, j'aurais peut-être un truc à faire. C'était quand même déjà très présent aussi. Ouais, je composais tout le temps, je chantais aussi beaucoup Maria Carey toute seule dans ma chambre avec mon séchoir à cheveux, bon, vraiment là, le cliché de l'adolescente.
Quel clip, quoi.
Voilà. Mais ouais, j'avais besoin de chanter, j'aimais ça. Ouais.
Mais vous disiez, vous faisiez peu de reprises des autres, mais la musique à cet âge-là, c'est à cet âge-là aussi que vous découvrez Scheller. Vous parliez de Barbara tout à l'heure, Björk aussi, je crois, qui a été très importante pour vous. C'est une époque où la musique est importante.
Ah non, mais on se construit dans la musique. Ces moments-là d'adolescence, c'est presque la BO de marbre de nos vies, quoi. C'est ce qui va rester sculpté pour toujours, quoi. Qu'est-ce que j'écoute à ce moment-là? Je suis sûre que ce que j'ai écouté à ce moment-là, ça va être déterminant pour ce que je vais faire comme musique ensuite, quoi. Parce que c'est à la fois ce qui se passe dans ma famille musicale, c'est-à-dire à la fois c'est encore le territoire des parents, le moment de l'adolescence, et en même temps c'est le territoire où on s'émancipe, on commence à avoir envie d'écouter des trucs que nos parents connaissent pas ou n'apprécient pas. Donc il y a aussi ces premières évasions musicales qui sont une forme d'appropriation de soi-même en se disant « ça me ressemble, ça c'est bien moi ». Et Björk en faisait partie, parce que l'extrême sauvagerie de sa musique, l'extrême liberté, cette voix qui peut à la fois passer du murmure à l'explosion comme ça, ça me chamboulait totalement, quoi.
Ouais. Enfin, vous le disiez, les études, ça vous plaît beaucoup. À 18 ans, vous partez à Paris, vous installez, vous faites Hippocagne, c'est ça? Vous faites des études de lettres, avec l'idée de devenir comédienne, c'est ça? C'est le théâtre qui vous plaît beaucoup à cette époque?
Ouais, j'avais des semaines bien remplies parce que je faisais donc Hippocagne et puis ensuite Cannes, et j'étais en parallèle dans une formation de théâtre qui me prenait presque 10 à 15 heures par semaine. Donc j'étais dans les lettres à 2000%, voilà. Ouais. Donc la semaine, je lisais, je faisais des explications de textes, et le mercredi et le samedi dimanche, je disais des textes sur une scène de théâtre. Donc c'était très... j'ai adoré cette période-là. Parce que j'avais pas envie d'avoir Normal Sup, c'était pas pour moi, je le savais. Mais par contre, j'avais l'impression d'être à un banquet, quoi. J'avais l'impression d'avoir les meilleurs profs du monde, les plus intelligents, les plus brillants. J'avais mon prof de lettres qui était une espèce de réincarnation de Marcel Proust, qui arrivait en costume trois pièces avec un petit monocle, qui montait les escaliers en croisant les jambes à l'égyptienne, et qui parlait un peu comme ça, et qui était vraiment un espèce de monument de du savoir, quoi, de la littérature. Et je me disais, mais quel change, quel luxe, quoi. Le luxe de la pensée, parce que je me souviens, on avait des disserts, ça durait 5 heures. On nous demandait de réfléchir sur une citation de, bah, je crois, de Rimbaud, en disant, voilà, vous avez 5 heures, une feuille, un crayon. Quel luxe, quoi, de pouvoir avoir l'espace de réfléchir, de penser, toute la maïeutique du pour, du contre, de former son esprit à tant de largesse, quoi. Moi, je me souviens, j'adorais ça. J'étais pas hyper bonne, il y avait des gens dans ma classe qui étaient vraiment des pontes, quoi, qui étaient complètement, qui étaient taillés pour normal. Ça a pu me filer des complexes parfois, mais comme j'allais au théâtre après, les autres jours, et que je sentais que j'étais vraiment appelée par ça, par la scène, ça compensait.
C'était quoi qui vous plaisait? Enfin, les textes de théâtre, vous le disiez, les auteurs de théâtre vous plaisaient beaucoup quand vous étiez adolescente et tout ça. L'idée de devenir comédienne, c'était porter ses textes, c'était être sur scène, c'était les deux choses. Qu'est-ce qui vous plaisait?
De toute façon, depuis que je suis petite, tout le monde me dit « Ah, la comédienne, ah, elle est comédienne, celle-là, elle va nous faire sa comédia, la diva, nanani, nanana, la drama queen et tout. » Donc, je sais pas, il y avait un truc où ça me collait un peu à la peau, déjà, depuis que j'étais enfant.
Aimiez faire des spectacles, être regardée,
voilà,
tout ça, oui.
Voilà, les spectacles, et puis, faire rire, ça, j'aime bien. Mais je crois pas que ça passait forcément par la musique au départ. J'ai l'impression que j'ai vraiment apprivoisé la scène grâce au langage, grâce au théâtre. J'aimais le côté aussi de la troupe. Ça, je trouvais ça super, d'être plusieurs sur scène, d'avoir ce truc aussi vivant que ça, d'être avec les autres. Les costumes, ça, c'était vraiment la passion des costumes. Juste, ça fait rire de mettre une moumoute sur la tête, ça fait rire quoi qu'il arrive. Je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait là-dedans, la joie, quoi. La joie que c'était d'être... Ce truc de troupe m'avait vachement marqué. J'aimais beaucoup cette ambiance, justement, moi qui avais peur d'être seule. J'aimais bien qu'il y ait plein de monde, des costumes partout, que ce soit le bordel, que ce soit très vivant comme ça, ouais.
Mmh. Alors, vous le disiez, bon, bah, normal sup, vous n'y rentrez pas, mais du coup, vous continuez après à faire des études de lettres, et vous avez travaillé, ça m'intéresse, sur Romain Gary, et sur l'autobiographie. Gary, c'est un auteur qui est important pour vous?
Bah, au départ, je voulais faire un truc sur Proust, et puis, en fait, c'était tellement balisé, il y avait déjà tellement de choses que j'avais peur d'avoir rien à dire de plus intéressant, c'était même sûr d'ailleurs, que pas mal de gens qui ont écrit sur Proust. Et ce qui m'a fascinée chez Gary, c'était
C'est encore une rockstar, là, pour
c'est une rockstar, voilà. Et c'est la plus grande supercherie littéraire de génie. Quelqu'un qui a écrit donc deux fois le même livre, La promesse de l'aube sous le nom de Romain Gary, puis La vie devant soi sous le nom d'Émile Ajar, et qui a poussé tellement loin la fiction littéraire que ce pseudonyme d'Émile Ajar, il l'a fait incarner par son cousin, qui donc allait sur les plateaux télé en faisant croire à tout le monde que c'était lui, Émile Ajar. Et pour moi, ça racontait un truc qui est fondamental, et de plus en plus pour moi, et surtout après tout ce qu'on vient de traverser collectivement avec le Covid, c'est que les fictions sont le territoire le plus puissant de nos libertés. Que finalement, on peut nous enfermer dans quatre murs, aussi grands, aussi petits soient-ils. L'endroit d'évasion le plus vrai, le plus puissant, c'est l'imaginaire. C'est les vies qu'on s'invente, c'est les vies qu'on raconte. Et Romain Gary, il a été chercher ça. Il s'était un jusqu'au boutiste de la fiction. Il s'est inventé sa vie et il a cassé les codes de l'autobiographie en disant finalement, ma vie réelle, mon quotidien, c'est pas ça que je vais raconter. Ce que je vais raconter, c'est comment je rêve ma vie. Quelle est ma vie rêvée? Comment j'aime ma fiction intérieure? Et elle sera bien plus vraie, et elle sera bien plus puissante, et elle sera bien plus proche de moi que la vérité concrète et réelle de mon existence. Et ça, pour moi, c'est un mantra très fort.
Ouais, je vais vous demander, par rapport à votre écriture à vous, si c'était quelque chose, c'était une idée que vous aviez conservée.
Mais complètement, parce que tout le monde demande toujours dans les chansons, mais c'est vraiment vous? Est-ce qu'il y a c'est labellisé réellement?
Ça vous est arrivé?
Vu à la TV, vraiment vu ou vraiment vécu? Et en fait, est-ce que c'est ça la bonne question? C'est pas forcément ça qui nous intéresse. Si jamais c'est ce dont j'ai rêvé, si jamais j'ai fantasmé, est-ce que c'est pas encore plus puissant, encore plus vrai que si c'est vraiment vécu? ça me guide, parce que je pourrais toujours m'inventer des vies jusqu'à ce que je finisse, même en EHPAD, même n'importe où. J'aurai toujours des choses à dire, parce qu'il y aura toujours quelque chose dont j'aurai envie de rêver, quoi.
Avant que la musique prenne le pas, comme ça, donc il y a eu une déception, parce qu'avec le théâtre, bon, vous n'êtes pas rentrée au conservatoire, donc comédienne, finalement, vous avez un petit peu renoncé. Donc, enfin, vous êtes devenue documentariste, ça, c'est un truc qui vous a beaucoup intéressé. Et parallèlement, vous faisiez de la chanson. Alors, au début, il y a eu un projet cabaret, et puis, petit à petit, vous êtes arrivée à écrire des chansons. Vous avez mis du temps à trouver ce qui vous ressemblait, non,
en fait? Oui, parce que je suis lente, je crois, parce que je pense que, malgré tout, j'étais quand même assez, malgré tout le côté extraverti, j'étais très inhibée, je pense, avec assez peu de confiance en moi, au final. Je savais pas trop qui j'étais, je savais pas trop ce que je... Même physiquement, je me cherchais pas mal, cheveux courts, cheveux longs.
Ça se traduisait, oui, c'est ça, j'allais vous dire, dans l'apparence, ça se traduisait dans comment vous habillez, comment... C'était difficile de trouver ce qui était vous?
Bah ouais, j'étais tout le temps habillée avec des chemises beaucoup trop grandes pour moi. J'arrivais pas à capter l'échelle de mon corps, j'arrivais pas à me voir, voilà. Et je crois que ça a été pareil en musique. J'ai cherché, j'ai exploré plein de territoires qui n'étaient pas du tout les miens. Et je sais qu'il y a eu un déclic, mais qui est arrivé tard. Aussi, peut-être, il y avait de la pudeur. Et aussi, sans vouloir accabler mes parents, je pense qu'il y avait aussi tellement d'exigences autour de moi qu'il y a eu peut-être un peu de difficulté à se dire, mais vas-y, ose. En fait, bizarrement, j'ai été élevée dans une vraie liberté, et en même temps il y avait une rigueur de si tu montes sur scène, c'est que tu as quelque chose à dire. J'avais un problème de légitimité, quoi. Et ça s'est dénoué parce que j'ai fait autre chose, parce que j'ai travaillé dans le documentaire, parce que j'ai passé du temps à faire autre chose, que ça se passait bien et j'ai pris confiance en moi. Et puis du coup, il y a eu un moment où j'ai senti que la musique m'appelait de manière beaucoup plus... j'étais plus en confiance, quoi. Les planètes se sont alignées doucement. Mais ouais, ça a mis beaucoup de temps.
Ouais, et puis donc il y a eu cette chanson qui a un peu tout changé pour vous, qui était L'amour en solitaire. Hier, en préparant cette interview, je regardais sur YouTube, on trouve encore votre premier passage à la Gaieté Lyrique lors des Arts Club. C'est pas la finale, hein, c'est des tours. Non, et vous jouez
patiné,
L'amour en solitaire, toute seule au clavier, comme ça. Et à l'époque, donc vous aviez remporté ce concours, c'était en 2014. Et à l'époque, la chanson était sortie, après, je me souviens très bien, en single. C'était Yuxek qui avait fait les arrangements, et c'était une version électronique de L'amour en solitaire. Puis après, elle avait recartonné en 2017, quand vous aviez sorti votre premier album Petit Ami, et là vous étiez en piano-voix, en fait. Voilà. Mais cette chanson, elle a vraiment tout changé, en fait.
Bah, c'est drôle qu'elle s'appelle L'amour en solitaire, parce que du coup, au final, c'est devenu L'amour à plusieurs. Mais c'est vrai que cette chanson a tout changé. C'est fou, hein, comme quoi. Et pourtant, elle était. Je me souviens très bien comment je l'ai composée. J'étais pas du tout dans la perspective de quoi que ce soit. Je l'ai composé parce que j'avais le cœur brisé par un type et que j'avais juste besoin de chanter en pyjama chez moi pour exorciser. Mais j'ai le souvenir de la première fois où j'ai entendu les gens dans la salle la chanter en même temps que moi. Et là, il y a eu le choc de dingue. C'était presque insoutenable tellement c'était fort, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je la chante, même après l'avoir chantée beaucoup, beaucoup, j'ai une gratitude envers cette chanson, j'ai l'impression. Parce que comme elle ne m'appartient plus qu'à moi, je sais pas, je l'aimerais toute ma vie, quoi.
Et alors, il y a une autre chanson de cette époque qui est importante aussi, c'est Manque d'amour. Parce que c'est une chanson dans laquelle vous allez chanter un peu différemment, vous allez lâcher votre voix. Et vous disiez, quand j'ai écrit cette chanson, il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau de mon style, en fait. Où je me suis trouvée vraiment, ouais.
Ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure de la voix qui s'envole un peu dans les hauteurs, un peu lyrique, et puis le côté un peu kitsch, un peu à l'américaine, mais avec, j'espère en tout cas, une certaine sensibilité. Ouais, je crois qu'en tout cas, cette chanson-là, je me suis dit, ça c'est moi, ça c'est Juliette Armanet. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est, je cherchais ce truc-là depuis longtemps, quoi.
On parlait de L'amour en solitaire, de Manque d'amour. Aujourd'hui, vous sortez un nouvel album, donc 4 ans plus tard, qui s'appelle Brûler le feu. C'est un disque aussi qui parle beaucoup de désir, du désir qui consume, du désir qui nous fait avancer aussi. Enfin, l'amour, c'est toujours, ou le désir, ce qui sont, qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment le matériau privilégié pour vous, pour écrire des chansons?
Je pense que je suis mes parents m'ont appelée Juliette, j'ai l'impression que je suis Non, mais je suis vraiment dans ces préoccupations de l'amour, quoi. J'ai été baptisée comme ça. Je crois que j'ai l'impression que c'est mon...
C'est un goût chez vous, en fait.
C'est un goût, c'est une obsession presque, ouais. Je suis presque un peu obsédée par le sentiment amoureux. D'ailleurs, quand on parle d'amour, je parle autant de l'amour dans ce disque. Enfin, libre à tout le monde d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Mais en tout cas, il y a autant d'amour. Ça explore autant l'amour de l'amitié, l'amour filial, l'amour du couple, que les amours passionnés, voilà, que les grands écarts. Donc c'est l'amour un peu sous toutes ses formes, avec toutes les palettes infimes et infinies qu'on peut y trouver. Mais non, je suis vraiment une obsédée de l'amour parce que ça me déplace, parce que ça me bouge. C'est ce qui me remet sans cesse en question, c'est ce qui m'inspire le plus, parce que j'ai l'impression que rencontrer quelqu'un, par exemple, dans une vie, quelqu'un qui va compter pour soi, quelqu'un qui va te chambouler, qui va te rendre obsédé en disant « mais je ne peux plus vivre sans cette personne », c'est un des trucs les plus magnifiques qui puisse nous arriver, de sortir à ce point de nous-mêmes, d'être attiré par les autres, par l'autre. C'est ce qui sauve l'amour, parce que c'est ce qui nous fait sortir de nos préoccupations intérieures, de nos névroses, de notre nombrilisme. C'est être comme ça, dépendant des autres. Je trouve que c'est beau. Je trouve ça beau d'être dépendant de ses amis. Je trouve ça beau d'être dépendant des gens qu'on aime, parce que on n'est pas grand-chose à soi tout seul. Donc, ça parle aussi de ça, du lien, des liens avec les autres, qui sont les liens les plus... qui nous font exister, quoi.
Et c'est toujours... Je me souviens de... On s'était vu quand vous aviez sorti votre premier album et vous me disiez à l'époque que c'était difficile de lâcher vos chansons, de terminer le disque. Vous êtes assez perfectionniste, je crois. C'est toujours le cas? C'est difficile, toujours, de...
Mais je suis complètement folle. Moi, je n'arrive jamais à m'arrêter. Je suis... Je retouche, j'enlève, je refais, je défais Pénélope avec sa toile, quoi. Il y a un geste de... qui est souvent d'aller-retour permanent, de vouloir être sûr de comment c'est dit, pourquoi c'est dit, est-ce que c'est bien dit, est-ce que ce cling là, il arrive pile au bon moment. Il y a du perfectionnisme, il y a aussi un peu de la névrose de pas réussir à finir, parce que quand c'est fini, il y a une petite mort, quoi.
Ouais,
il y a quelque
sûr.
Chose de l'ordre de voilà, ça c'est fait, c'est fini, c'est derrière moi. C'est vertigineux de se dire qu'on aboutit quelque chose. La seule chose qui me console là-dedans, c'est de me dire que tout ce que j'ai pas pu explorer pour le disque, je pourrais l'explorer en live, que le public donne du sens à tout le sens qui manque parfois dans les choses, où on a l'impression qu'il y a pas, que c'est pas assez allé au bout. Bah en fait, c'est le public qui va prendre le relais du sens.
Il y a la réception, quoi, qui va donner le, ouais, achever de donner le sens, ouais.
Puis voilà, l'inachevé fait partie de nos vies. Il faut y consentir. Mais de toute manière, on a toujours l'impression qu'on vit un peu le brouillon de nos vies. On se dit, ah mais si j'avais su, j'aurais pu faire comme ça. Ah mais... Donc je crois que ça fait aussi partie d'un truc très fondateur dans l'humain, de toujours se dire qu'on vit le brouillon d'une vie, quoi. Et ben c'est pareil en musique, quand on fait un disque, ce qui sort, c'est presque le brouillon du disque qu'on aurait aimé faire. Et au final, c'est peut-être ça qui est beau.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Alors là, ici, c'est le salon, salle à manger. En fait, je suis arrivée dans cet appartement, j'étais vraiment enceinte jusqu'aux dents et à deux doigts d'accoucher. Et donc, l'entrepreneur qui devait faire les travaux nous a lâchés. Donc, c'est mon mec qui s'y est collé, vraiment, mais avec à la hache, en cassant tout. Parce que c'était une dame qui vivait ici avec 14 à 15 chats. C'était immonde, ça puait. Et du coup, on est arrivé là et vraiment, on a cassé les murs, le parquet. J'ai un souvenir de ma belle-mère avec une lampe frontale à minuit en train de poncer le parquet avant que le bébé arrive. Et voilà, c'est mon mec a fait voilà, ces étagères en bois qu'il a poncées, qu'il a faites absolument sur mesure, qui sont magnifiques en chêne.
Et alors ça, c'est quoi?
Alors ça, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Donc, de toute façon, depuis qu'on est ici, on a eu le temps de rien. Je voulais avoir acheté plein de trucs, décorer bien. Mais tout était quand même très, très bordélique.
C'est un abat-jour, mais un peu particulier.
Oui, et voilà. Donc, j'ai jamais eu le temps d'acheter cet abat-jour. Donc, c'est un sac Naturalia, figure-toi, qu'on a resculpté pour faire... Mais on le voit pas trop.
Non.
Voilà, ça fait une lumière un peu orangée. C'est un petit sac Naturalia qui fait office d'abat-jour. Bon, ça fait camping, mais c'est cool, j'aime bien.
Quelle relation vous entretenez avec les objets ? Est-ce que c'est important pour vous ou pas ?
Je peux être hyper fatiguée, crevée, et arriver chez moi avec une seule envie, c'est de regarder Friends avec une soupe à la tomate en brique et me dire que non, ça va pas, cet objet est pas au bon endroit, et me mettre à bouger des objets, à les changer. Après, là, maintenant, je vis en famille. Donc, c'est très bizarre pour moi. J'ai beaucoup vécu toute seule, avec mon décor à moi et tout. Et là, d'un seul coup, évidemment, maintenant, on est trois dans cette maison. Donc, déjà, mon appartement, la plupart du temps, c'est une ludothèque. Hein. Y a des objets, des jouets partout, etc. Donc déjà, ça change complètement le décor. Et puis, je suis plus seule à avoir mon décor à moi. Je partage avec tous les bras de fer que ça implique.
Il y a des compromis de goût à
des
faire.
Des compromis de goût. Et ça, j'avoue que ça me déstabilise un petit peu. J'ai l'impression que j'ai du mal à transiger sur certains trucs que j'aime. Et que du coup, cet appartement, en même temps, et c'est tout ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est, comme un cocktail complètement explosif et bordélique entre les goûts de mon mec et des miens, plus
l'univers de l'enfant.
De l'enfant qui atomise littéralement tout ce qu'on essaie de mettre en place pour que ça. Voilà, enfin, c'est vraiment un autre monde. Donc, c'est un appartement qui est fait de plein de compromis et en même temps, c'est ça que j'aime, c'est que justement, c'est un lieu de. C'est le lieu de qu'on partage, quoi. Donc, forcément, il y a des maladresses et je trouve ça assez joli.
Est-ce que vous avez toujours des objets ? Parce que je me souviens que vous disiez avant que vous aviez beaucoup d'objets un peu bizarres chez vous, un peu...
Voilà, est-ce que j'en ai autant
trivio,
qu'avant ?
Trivio, un peu...
Là, j'ai un pied en porcelaine bizarre. Je ne sais pas si j'ai autant d'objets bizarres qu'avant. Si j'ai mon petit chien, là, que j'aime bien.
Est-ce que vous avez toujours le goût du kitsch ou plus du tout ?
Ah si, j'ai le goût du kitsch.
Toujours. Bah,
là, regarde, au final, avec ce décor d'anniversaire comme ça, ces cotillons, ces ballons dans tous les sens, je me demande si je vais pas rester comme ça.
C'est beau
peut-être
comme ça.
Mieux comme ça. Hein. Ouais, j'ai le goût du kitsch. Bah, j'aime les objets qui intriguent, qui arrêtent le regard, qui déstabilisent, qui font rire, quoi. Ça me plaît énormément.
Dans le kitsch, il y a une indécision. Enfin, c'est-à-dire que le regard oscille entre deux choses. C'est ça qui vous intéresse ou
Le bon, le mauvais goût. De toute façon, ça, c'est toujours la grande question. Qu'est-ce qui est bon goût? Qu'est-ce qui est mauvais goût? C'est la question, une des questions les plus passionnantes. Parce qu'en fait, je repensais avant cette interview au film Le goût des autres.
Ouais, Daniel
qui est
Zé-Louis,
un chef-d'œuvre absolu, vraiment, que j'ai revu récemment. D'une humanité incroyable. Et on est toujours le mauvais goût de quelqu'un.
Oui.
On a toujours celui... Comment ? Tu ne connais pas ce pièce de Jackie Schlack-Biduc ? Tu as ce canapé, mais tu te fous de moi. Enfin, voilà, toute cette frontière entre qu'est-ce qui va être du bon goût, du mauvais goût, qu'est-ce qui est pile au bon endroit, qu'est-ce qui est déplace, qu'est-ce qui va nous faire rire. C'est des strates, c'est des bulles, en fait, tout ça. C'est des petites bulles. Dans quelle bulle est-ce que tu vas être ? Est-ce que tu vas être celui qui a le dernier canapé Togo hyper chambé avec la bonne couleur? Est-ce que t'en as un à foutre et ton canapé il vient de Emmaüs et qui est encore plus branché que le Togo?
C'est ça, tu fais peut-être partie du groupe qui pense que les Togo c'est trop tard maintenant.
Bon, en tout cas, on a le luxe de se poser la question du goût et ça c'est très puissant, c'est une chance parce que c'est pas donné à tout le monde de se poser cette question-là.
Bien sûr.
Voilà. Et voilà, Le goût des autres, je trouve que c'est un film génial parce que c'est justement cette frontière entre ce qui est une évidence pour les uns et ce qui est totalement inconnu pour les autres, ce qui compte en fait pour soi. Finalement, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui compte pour soi ?
Mais c'est difficile de répondre à ça en plus. En vrai, quand on se dit effectivement c'est quelque chose qui est très influencé, qui est social, qui dépend effectivement de sa classe sociale, du milieu dans lequel on est, tout ça. Et en fait, de se dire, mais moi là-dedans, si j'enlève toutes ces petites pelure d'oignon, qu'est-ce que j'aime ? C'est assez vertigineux.
C'est vertigineux et c'est surtout mouvant, j'ai l'impression. En fait, ce qu'on aime, ça peut grandir, ça peut bouger, ça peut évoluer. Et puis parfois, on n'est pas à l'image du lieu dans lequel on vit. Parfois, on est à l'image du lieu dans lequel on vit. Bon, parfois, on est mieux intérieurement, vraiment à l'intérieur de soi que chez soi. Bon, ça change.
Parfois, c'est l'inverse.
Parfois, on a un beau canapé, mais une vie pourrie. Et parfois, on a une vie géniale et un canapé nul. Bon...
Et justement,
je préfère avoir une vie marrante.
Ce que vous disiez par rapport au bon goût et au mauvais goût, est-ce que justement le kitsch pour vous, c'est une espèce de pas de côté, quoi, de pirouette par rapport à cette question-là?
Complètement, c'est un pied de nez par rapport à ce qui est dans les comment dirais-je, ce qui est dans... puisque finalement il y a beaucoup de normes là-dedans de comment, de comment on va décorer son intérieur, même si on a l'impression qu'on a trouvé le bon objet, c'est très normé, mais j'accorde quand même beaucoup d'importance à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qui est visible de soi. Je trouve que c'est important, le décor. Par exemple, les maisons sans livres. Quand j'entre dans une pièce, une maison où il n'y a pas de livres, j'ai une crise d'angoisse. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me gêne.
Et justement, on parlait du kitsch. Ça rejoint, je trouve, un goût qu'il y a chez vous aussi. C'est l'idée d'une distance, en fait, d'une ironie au bon sens, de distance par rapport aux choses. Je pense aux pochettes de vos albums, par exemple, qui ont été réalisées par Théo Mercier, qui est votre ami artiste. Il y a toujours comme ça une distance, une petite distorsion par rapport à la norme. Ça, c'est quelque chose qui vous ressemble aussi?
Mais parce que c'est peut-être aussi un peu de la pudeur. Quand on fait un disque, la pochette, c'est toujours l'image, c'est la clé. On donne la clé du disque, on dit ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et j'ai jamais trop aimé le fait de plaquer du sens sur les choses. J'aime bien l'idée qu'on laisse une petite fenêtre d'infini, justement, de brouillard, en se disant, je donne une clé sans en donner une, je montre quelque chose, mais en même temps, ça donne pas à voir tout. Je plaque pas du sens. Parce qu'aussi, il faut faire confiance au spectateur et au public de trouver du sens par lui-même dans les choses. Donc, les photos, par exemple, des pochettes, c'est toujours un endroit très, très délicat à trouver parce que j'aime l'idée que ça me ressemble, j'aime l'idée... Évidemment que ça surprenne, que ça soit un peu ça déplace, et en même temps j'aime l'idée que ce soit pas la seule image qui nous reste, que ce soit juste une porte à ouvrir pour découvrir la suite. Les pochettes trop premier degré où tout est dit, j'ai l'impression que ça m'oppresse, moi.
Il y a un truc que vous dites aussi que j'aime bien. Vous dites dans les magazines et tout ça, il y a toujours cette injonction soyez vous-même, ressemblez-vous. Et vous dites comme si on avait le choix d'être autre chose que ça. Et donc finalement, ne soyons pas nous-mêmes, déguisons-nous, faisons ce pas de côté. C'est
mais
aussi une liberté,
quoi. Mais en fait, je trouve ça, c'est vraiment génial toutes ces unes. Soyez vous-même. Enfin, believe in you. Enfin, be yourself, quoi. Et cette
mais quand même 10 kilos avant l'été.
Mais voilà, mais quand même, mais avec 10 kilos de moins. Mais be yourself, en fait, je n'ai tellement pas d'autre choix que d'être moi-même. C'est ça qui est le plus vertigineux dans la condition humaine. C'est que, je suis comme ça, je suis 1m58, je m'appelle Juliette Armanet, je serai jamais quelqu'un d'autre, je serai jamais plus grande, je serai jamais peut-être un peu plus petite quand je serai vieille. Mais justement, ne soyons pas nous-mêmes. Déguisons-nous intérieurement, extérieurement. C'est là la meilleure manière d'échapper au fatum, quoi. Au destin qu'on a d'être cette personne-là. Et c'est peut-être d'ailleurs la plus grande des richesses. Et on y revient, c'est cette histoire de fiction. La fiction, c'est le territoire de la liberté. Les fictions de soi, c'est la meilleure manière de se connaître. C'est de se perdre, de se déguiser, de se travestir, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, une autre fiction de soi, enfin une autre façon de projeter une fiction de soi, c'est les vêtements. Lors du précédent album, vous disiez « je suis trop complexée, du coup je mets des trucs unisexes, j'ai mis du temps à apprivoiser ma taille, ma silhouette ». Aujourd'hui, vous en êtes où?
Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis un peu plus haute. C'est peut-être avec l'âge que... Non, c'est vrai, je crois qu'il y a, il y a quelque chose de plus sensuel. Non pas que je me trouve mieux qu'avant, hein, je pense pas que ce soit du tout lié à ça. Je sais pas, il y a eu une mue, un peu, sans doute. J'ai envie de quelque chose de plus féminin. Alors ça, c'est vraiment incroyable.
Vous disiez que c'était une question, ça, c'est-à-dire les vêtements trop féminins, ça vous gênait.
Ouais.
Enfin, il y avait cette question de comment faire pour échapper aux normes, ni être un objet, ni en même temps être une guerrière, ce qui est cliché de notre côté. Enfin, il y avait cette espèce de recherche, quoi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise avec le côté féminin.
Je mets toujours jamais de jupe, de robe, ni des trucs comme ça. Ça, c'est mort. C'est sûr. Mais par contre, j'ai pour travailler sur un clip, on m'a offert des platform shoes de dingue. Et moi, qui n'ai jamais porté de talons, j'ai commencé à les porter. Il se trouve qu'elles sont hyper confortables. Elles font 20 cm de talons. C'est vraiment des chaussures de drag queen. Et je les mets non-stop. mais je peux plus sortir sans. Donc c'est très bizarre. Donc voilà, il y a un truc qui a bougé. J'ai pris 20 centimètres et du coup ça fait une autre silhouette. Et j'aime bien ce truc là. Et c'est encore un déguisement, mais ces grosses bottes là de drag queen qui sont autant masculin féminin parce qu'elles sont en cuir noir, elles sont un peu hautes à nouveau. Du coup, je les aime bien parce qu'elles m'emmènent un peu ailleurs. Et en fait, en même temps, ce truc du deuxième album, on a aussi envie d'un truc... Parfois, il y a la tentation Bowie de se dire « Alors, je vais me raser la tête, je vais me faire pousser la barbe, je vais me mettre des talons... »
Je vais aussi projeter une nouvelle image.
Oui, ouais. On a envie d'essayer des trucs. Donc, ouais. J'essaye, on verra.
Quel type de goût vous plaise, Juliette? Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez beaucoup le salé. Enfin, d'une manière sensible, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas?
J'aime le sel, le salé, le piquant, le olive, capre, citron mariné, tout ce qui est comme ça, vinaigre, citron, sauce soja.
Cornichon.
Je suis une femme de sel. Vraiment, j'adore ça.
Est-ce que vous avez des dégoûts, des trucs que vous n'aimez pas du tout?
J'aime pas l'ail, mais ce que je déteste le plus au monde, c'est le persil. C'est vraiment horrible. J'aime pas du tout ce goût, même cuit, c'est horrible.
Bizarre.
Sinon, j'aime tout.
Et est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût?
J'ai eu des crushs pour, je sais pas, des gens avec qui j'étais pas du tout dans le même univers, un moniteur de ski, des gens de... J'étais pas du tout dans le... Ou rien à voir en termes de vie, d'esthétique, etc. Mais tomber vraiment amoureuse... Non, je crois particulièrement que l'homme avec qui je partage ma vie a un goût incroyable, un regard sur le monde, une épure et une esthétique qui m'a toujours fascinée, qui m'a donné confiance. Par exemple, quand on s'est mis ensemble, il avait acheté une ruine, une maison à la campagne qui était rien, avec du béton sur un terrain vague, près d'un petit chemin de fer. Et il a tout retapé lui-même, tout seul, le toit, les escaliers, la maison, on a tout refait, les murs. Et la moindre étagère, il l'a faite lui-même, aller acheter les tranches de bois, à aller les polir, trouver les bonnes couleurs, la bonne rainure de bois. La sensibilité à ça, à ce détail-là, à la sensibilité aux matières, aux belles matières qui durent, les matières nobles qui restent comme ça, ça me touche, ça me bouleverse. Je sais pas, ça raconte quelque chose de... C'est un homme de qui est dans le temps, dans la longueur des choses. Et ça me rassure. Et ce goût-là, pour les choses qui durent, pour les choses qui restent, pour aller à contre-courant de notre génération où on jette tout dès qu'on a un truc troué, dès qu'on a un objet cassé. Par exemple, lui, c'est quelqu'un qui répare, qui va aller recoller un objet cassé. Un truc que je ferais jamais. Et ben, ça me rend amoureuse, ouais.
C'est ça pour vous. Avoir du goût, c'est être dans le temps des choses.
Ouais, avoir du goût, c'est sans doute être dans l'intemporalité du monde. Avoir un rapport au monde qui soit pas que circonstanciel. Être dans un rapport plus vaste à l'échelle des choses. Ça, c'est fort.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin, et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.